Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent, puisque nous avons 5 types d'épisodes. Les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneur, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où je reçois Sandra Fiodo qui est la créatrice, la fondatrice de l'entreprise Conscious Cultures, elle le prononcera beaucoup mieux que moi, et du podcast Les Équilibristes. Elle a pour mission de faire valoir justement cette définition de l'équilibre. Elle nous en parle beaucoup mieux que moi et pour elle, l'équilibre, ce n'est pas équilibre vie pro, vie perso, ce n'est pas une balance, c'est une fluctuation, c'est un flot dans votre quotidien. Donc j'espère que vous aimerez notre échange parce que j'adore vraiment ce que Sandra a vécu. Je vous souhaite une bonne écoute.
J'avais ce côté très jugeant et très dur à l'époque de me dire oui, ça va, tu vas pas faire un caprice pour aller à la danse, quoi. La vie d'adulte, c'est ça. Et bien, tu vois, cette idée très forte que la vie d'adulte, c'est ça, c'est les responsabilités, c'est une forme de charge, etc. Et donc, si t'as pas le temps de voir tes copines et que t'allais faire de danse, ça va, prends un peu sur toi ma cocotte. Ce côté pas très bienveillant, pas très sympa. J'aurais jamais parlé comme ça à une copine, mais en tout cas, c'est comme ça que je me parlais. Et ça, il a fallu la défaire cette idée-là, quoi. Sortir de cette idée que on peut pas aspirer à autre chose, quoi. Qu'une carrière ambitieuse, exigeante, intéressante, allait forcément de pair avec le fait de rogner sur ce qui fait qu'on est soi, par ailleurs.
Hello Sandra, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial mais aussi de cette notion d'équilibre qui t'est très chère et où tu as une définition différente de l'équilibre vie pro-vie perso dont on entend beaucoup parler. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir.
Avec plaisir. Alors, ma première question que je pose à tous mes invités, c'est quel est ton parcours ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi ?
De mon parcours pro, tu veux dire
Pro, perso, vu que cette notion-là est étroitement liée. C'est ma ça, vie. Qu'est-ce que tu as en fait ? Comment tu es devenue entrepreneur ?
Voilà. Ouais. Écoute, dans les grandes lignes, je peux commencer par le fait que j'ai passé une bonne partie de mon enfance aux États-Unis. Et que ça a beaucoup marqué ma façon d'appréhender tout un tas de choses. Et je pense que c'est pas un hasard si je travaille sur les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui, parce qu'il y a une approche tout à fait différente dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, sur ces sujets-là. Mais voilà, une enfance super chouette aux États-Unis, avec ma sœur, génial. Et donc aussi ce cadeau de mes parents de nous rendre bilingues dès notre plus jeune âge. Donc ça, c'était super. Et après, un parcours d'études, grandes écoles, enfin prépa à grandes écoles, donc beaucoup de travail. J'ai toujours bien aimé travailler. J'ai toujours été, bonne élève, mais sans le... Comment dire ? Je me faisais évidemment traiter d'intello quand j'étais petite. mais surtout, j'ai toujours bien aimé travailler. Ouais. J'ai toujours bien aimé me mettre à fond dans les sujets qui m'intéressaient. Donc, j'ai beaucoup travaillé en prépa, en école. Et puis, au début de ma carrière, donc, j'ai commencé. Je m'étais jurée de ne jamais travailler dans le marketing. Et j'ai fait toute ma carrière dans le marketing. et ça, c'est aussi un des marqueur de ma vie, c'est d'avoir des idées assez fortes sur des choses et puis de changer d'avis parfois. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le marketing et j'ai adoré ça. J'ai adoré cette fonction au cœur des enjeux de l'entreprise. Une fonction dans laquelle on a besoin de pouvoir parler avec tout le monde dans l'entreprise. On a besoin de pouvoir comprendre les enjeux de tout le monde dans l'entreprise, que ce soit la prod, les ingénieurs, les clients, les commerciaux, le juridique, tout le monde. Faut qu'on comprenne le langage de tout le monde. Et ça, j'aimais beaucoup. Souvent dans des contextes internationaux aussi, parce que ça, j'aimais beaucoup aussi, parler le langage des autres et comprendre les spécificités de leur culture, de leur marché. Ça, c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup motivée. J'ai gravi les échelons, j'ai pris des postes de management, puis de direction marketing. Et puis, à l'arrivée de mon premier enfant, mon petit garçon, en 2014, j'ai eu une grosse promotion. Et en même temps, donc ce bébé... Et avec beaucoup de déplacements, beaucoup de responsabilités, beaucoup de demandes de présence, tu sais, à des dîners, pour recevoir des distributeurs qui étaient là, donc beaucoup de sollicitations. Et ça a commencé à tirer, où je me disais, mais en fait, comment on fait dans ces postes-là exigeants ? En anglais, il y a un terme qui s'appelle « greedy work », donc des jobs avares, dans le sens avare de temps, avare de temps et d'énergie. Alors, j'ai toujours adoré me déplacer, j'ai toujours adoré rencontrer les gens partout dans le monde, mais avec ce bébé à la maison, ça changeait la donne pour moi. Et j'ai commencé à m'interroger sur ces questions. Alors, je ne les posais pas comme des questions d'équilibre à l'époque, mais plus de comment je fais de la place à mes responsabilités, à ce qui compte pour moi. Le travail comptait toujours, mais voilà, ce bébé était là maintenant. Mon temps était différemment... était à allouer différemment. Donc, j'ai commencé à me questionner là-dessus, à chercher des exemples que je ne trouvais pas, de discours peut-être mesurés, plus proches de ce que je vivais, de ces tiraillements que je vivais. J'ai trouvé quelques réponses dans le livre de Sheryl Sandberg, Lean In, mais surtout, j'avais envie vraiment de témoignages. J'avais envie de comprendre ce qui se passait dans les coulisses. Donc, j'ai créé le podcast des équilibristes pour ça, parce que j'adorais le format audio. Et puis, petit à petit, les équilibristes, c'est devenu... une vitrine pour une activité professionnelle et je suis devenue entrepreneur comme ça.
Ok, alors j'ai plein de questions pour toi. comme je connais très bien la temporalité et que les équilibristes ont, j'espère ne pas me tromper parce que sinon j'ai dit, je me suis dit, les équilibristes ont 4 ans, du coup entre 2014 et 2018-2019, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, j'ai continué, j'ai persévéré dans ce poste-là. J'ai persévéré dans ce poste-là jusqu'au jour où j'ai décidé que je voulais mettre mon énergie ailleurs. J'ai quitté ce poste j'ai eu ma petite fille en 2018 c'est comme si j'avais eu une gestation des deux, de ma fille et de mon projet de podcast en même temps. Et donc ma fille est née en février, le podcast est né à la fin de l'année. Donc le temps de retrouver de l'énergie et du temps pour m'attaquer à ces interviews, mais avec vraiment cette envie forte de faire un peu bouger les lignes. À l'époque, c'était encore assez modeste, mais de se dire comment est-ce qu'on peut un peu faire bouger les lignes dans ce monde du travail qui, je le sentais, n'avait pas été créé avec des contraintes comme les miennes en tête. Mais les miennes, qui n'étaient pas que les miennes, bien sûr, hein, et qui sont celles de toutes les personnes qui ont des responsabilités, notamment parentales, en dehors du travail, et qui sont aussi très impliquées dans leur travail. Mais je me disais, zut, il y a quand même quelque chose qui manque, quoi. C'est quand même pas vraiment pensé pour les situations que je vis. Et avec un grand sentiment de solitude et aussi la réalisation que c'était absolument pas juste moi, que c'était pas un cas isolé. Donc l'envie de faire bouger les lignes. Et puis petit à petit, je me suis prise au jeu. Et c'est devenu vraiment un projet important pour moi.
C'était plus un simple podcast, c'était plus un jeu justement, non. C'était vraiment plus gros, plus grand.
Ouais, tout à fait.
Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, et notamment parce que j'ai écouté plein de podcasts dans lesquels tu racontes ton parcours, et il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée, et notamment cette fois où tu expliques que tu étais donc à l'étranger et que tu étais... en général, en déplacement professionnel, entouré souvent, très souvent d'hommes, et qu'en fait, tu voyais une vraie différence entre toi, ce que tu pouvais vivre, cette culpabilité peut-être qui te rongeait, et eux qui te disaient, mais il est où ton bébé, par qui il est gardé, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote, et si tu en as vécu d'autres, et comment toi tu l'as vécu, et comment aujourd'hui tu le traduis finalement avec tes bagages de coach et déséquilibriste?
Ouais. Alors, effectivement, le sentiment qui m'habitait bien souvent, c'était il y avait un peu de culpabilité au moment de partir. Après, quand j'étais en déplacement, j'étais dans mon truc, j'étais dans mon boulot, j'étais contente d'être dans ce que je faisais. Avec, tu fais peut-être référence à cette anecdote que j'avais racontée une fois, mais avec des moments de tiraillement aussi, où j'ai des souvenirs de coups de fil en FaceTime à mon bébé. À l'autre bout de la... Enfin, à plusieurs milliers de kilomètres de moi, où je l'appelais, je disais hey, « coucou » et tout. Bon, c'était ma situation, j'étais la seule à vivre ça. Il y avait effectivement plein d'hommes qui vivaient autre chose, soit parce que leurs enfants étaient beaucoup plus grands, soit parce qu'eux-mêmes, les rôles étaient très partagés de manière genrée, en fait, chez beaucoup de mes collègues, avec beaucoup qui avaient des femmes qui ne travaillaient pas. Donc, les questions ne se posaient pas du tout comme elles se posaient pour moi. Moi, en plus, j'avais mon mari était jeune médecin, où il terminait l'internat, donc avec aussi beaucoup d'investissement dans son job. Donc, il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. Donc, je me souviens des soirées à faire le planning. On imaginait le planning pour qui allait récupérer le bébé quand moi, j'étais pas là. C'était, voilà, avec ses horaires d'hôpital et les miens, c'était pas simple. Donc, il y a aussi toute cette réflexion autour de la notion de couple à double carrière. Qu'est-ce qui se passe quand les deux ont des jobs prenants et quand les deux ont peu la main sur leurs contraintes professionnelles, ça crée une couche de complexité qui est différente. Et pour revenir à ta question, voilà, c'était plus un sentiment de ben, quand je suis à la maison, vu que je suis moins à la maison que je le souhaiterais, qu'est-ce que je fais de ce temps, et est-ce que j'ai le droit d'aller à la danse, est-ce que j'ai le droit d'aller voir mes copines, et au-delà du droit, est-ce que j'en ai l'envie, est-ce que j'ai pas envie d'être à la maison, et donc il y avait toute une partie de ma vie qui passait derrière, qui passait en arrière-plan, et cette partie-là, c'est aussi ce qui fait ce que je suis, et c'était aussi une forme de carburant, d'alimentation, de nourriture pour me donner de l'énergie, pour mener à bien mes missions, pour être... une mère présente, enfin voilà. Donc il y avait comme si toute une partie de moi, enfin quand l'énergie était dans le boulot et dans le bébé, tout le reste ça passait bien bien après et ça a commencé à devenir difficile.
On reviendra après à cette passion pour la danse qu'on partage toutes les deux, parce que j'ai aussi fait de longues années de danse, mais je vois que ça anime beaucoup Les entrepreneurs, mais aussi si je parle de l'aspect du monde du yoga, souvent on a voulu retrouver le mouvement qu'on avait perdu mm-hmm. parce qu'on ne pouvait plus faire cette activité, parce que des enfants étaient arrivés ou des choses comme ça, des contraintes dans la vie ou une carrière, etc. Enfin, qui devraient normalement pas être des contraintes et qui mm-hmm. finalement deviennent des contraintes. Et donc on se dit, et j'ai trouvé... tes mots hyper justes de s'auto un peu gronder entre guillemets en se disant tu vas pas faire un caprice, et ça c'est ce que tu disais toi.
Est-ce que tu as j'avais cette sensation. Ouais, si tu veux, c'était j'étais tellement dans le ce que je dois faire, enfin ce que là où on m'attend, et qui était pas, en tout cas à mes yeux à l'époque, pas négociable. Il y avait cette envie d'être avec mon bébé, ça c'était pas négociable. Et puis ce qui était attendu de moi au boulot, qui était une grande présence, une grande disponibilité, et j'avais ce côté très jugeant et très dur à l'époque de me dire ça va, tu vas pas faire un caprice pour aller à la danse, quoi. La vie d'adulte, c'est ça. Il y avait, tu vois, cette idée très forte que la vie d'adulte, c'est ça, c'est les responsabilités, c'est une forme de charge, etc. Et donc, si t'as pas le temps de voir tes copines et de aller faire une danse, ça va, prends un peu sur toi, ma cocotte. Ce côté pas très bienveillant, pas très sympa. J'aurais jamais parlé comme ça à une copine, mais en tout cas, c'est comme ça que je me parlais. Et ça, il a fallu la défaire cette idée-là, quoi. Sortir de cette idée que on peut pas aspirer à autre chose, quoi. Que une carrière ambitieuse, exigeante, intéressante. Aller forcément de pair avec le fait de rogner sur ce qui fait qu'on est soi, par ailleurs.
Mmh, complètement. Du coup, je suis partie un petit peu dans tous les sens, désolée. mais du coup, il y a eu plein d'idées sur lesquelles j'avais envie de rebondir par rapport à ce que tu avais dit, ce que j'avais pu entendre aussi, avoir ta version. Et du coup, entre 2014 et 2018, donc il y a eu tout ce cheminement. À quel moment tu as décidé de changer de métier, donc d'arrêter et de retrouver une voie? Parce que si je me souviens bien, quand tu as quitté ton métier, tu ne savais pas encore vers quoi tu voulais aller, bien que tu avais les équilibristes.
Je savais que je voulais utiliser cette énergie que j'ai une grande énergie, une grande capacité de travail, je voulais la mettre au profit de ce sujet qui commençait à vraiment, vraiment me tenir à cœur, et où je voyais bien que je voyais plein de choses qui se créaient ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, et je trouvais qu'en France, on était sacrément à la bourre, et je voyais pas de structure dans laquelle retrouver un boulot salarié pour œuvrer à ça, tu vois, à me dire comment est-ce qu'on rend le monde du travail plus... accueillant pour des personnes qui ont des responsabilités en dehors. Donc, je pensais beaucoup à la parentalité, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres cas où on a besoin de temps en dehors du travail. Et pour autant, tu vois, je me souviens très bien d'une conversation avec ma cousine où je lui disais, qui est avocate, et je lui disais, tu vois, c'est intéressant. Et maintenant, avec le recul, je sais que c'est pas si simple, mais je lui disais, t'as de la chance parce que t'es à ton compte. Tu peux décider du nombre de clients que tu prends, t'as un métier qui est intéressant, qui est stimulant. Voilà, ça change pas, et tu peux décider d'être au 3/5. Je sais que c'est pas si simple maintenant, mais ça me faisait rêver. Je me disais moi, si je veux un poste de directrice marketing, bonne chance pour trouver un truc à 80% ou même moins, quoi. Et donc et puis encore faut-il que 80% soit une solution, c'est même peut-être pas forcément le cas, mais je me disais, ça vient, ces postes là qui étaient ceux qui m'intéressaient, avec tout un tas de contraintes qui me paraissent très importantes aujourd'hui, à l'époque. Donc il y avait cette réflexion-là et cette envie de me dire, l'énergie que j'ai envie qu'elle serve à faire bouger les lignes et à faire avancer ce sujet. Et je ne trouve pas de structure pour le faire de manière salariée, donc j'y vais en tant qu'entrepreneur.
Mmh. Et je suis totalement d'accord avec toi. Parce que la question que je me suis posée, et que les auditeurs connaissent un petit peu mon parcours du coup aujourd'hui, c'est ça. Je pensais que moi aussi je voulais évoluer en tant que directrice marketing, tout en ayant du temps pour pouvoir donner des cours de yoga, parce que j'ai pas d'enfants. Du coup, je voulais avoir plus de temps pour faire mes trucs, tout en évoluant dans un poste. Et en fait, ces deux choses-là en France,
C'était incompatible parce que qui dit directrice marketing dit tu as une équipe à minima ou en tout cas voilà des grosses responsabilités, donc beaucoup de temps et donc beaucoup de temps de travail, beaucoup de travail. Et même si tu as moins de travail parce que tu le délègues à ton équipe, ben en fait ça se fait pas de partir à 16 heures parce que tu dois y donner un cours de yoga. Mais donc c'était vraiment des grosses problématiques jusqu'au jour où ben j'ai eu la chance d'être confrontée à ça et d'en discuter, et qu'on m'a dit, bah non, en fait, c'est pas ça qui te correspond, c'est comme toi, Sandra, bah, être stimulée par d'autres choses, d'autres projets, accompagner les gens peut-être différemment, etc. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'avoir cet exemple de ce que tu pensais être l'entrepreneuriat quand tu en parlais avec ta cousine, et de ce que aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est plus de temps? Est-ce que quelle est la différence entre du coup ce que tu pensais avant de l'être et aujourd'hui ce que c'est réellement d'être à ton compte? Parce que ça apporte bien sûr des avantages, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent par rapport à ce rêve?
Ouais, ben peut-être que pour répondre à ta question, je peux faire un petit détour par quelque chose qu'on entend souvent, et notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat lié à la maternité. On l'entend moins maintenant parce que je pense que les gens sont revenus, mais il y avait toute une période où il y avait plein de gens qui disaient « Ah, je vais me mettre à mon compte, comme ça j'aurai davantage de flexibilité. » Et moi, c'est une idée qui m'a toujours paru très très risquée, parce que certes on a plus de flexibilité, c'est-à-dire que oui, si on a envie de ne pas se lever un matin, on peut ne pas se lever un matin, mais les conséquences de ça, on les assume seules. Et voilà, et donc il y a ça vient effectivement avec beaucoup plus de liberté, bien sûr, qui est très très précieuse, et ça vient aussi avec une charge mentale et une responsabilité, un poids de responsabilité qui sont tout à fait autre et qu'on ne mesure pas trop avant de se lancer. Donc, se lancer à son compte pour plus de flexibilité, pourquoi pas, à condition de vraiment adorer son projet, de pas faire ça pour la flexibilité, mais de le faire, d'envisager la flexibilité comme un plus bienvenu. Mais mon expérience et celle de beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, c'est qu'en tout cas, les premières années, et moi, je suis encore dans les premières années, je suis encore une jeune entrepreneur, l'équilibre, il faut se battre pour l'obtenir. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel du tout. Il y a une notion de chiffre d'affaires à faire rentrer pour pouvoir se rémunérer, pour rendre son entreprise rentable, pérenne. Et ça, souvent, j'ai pas d'exemple autour de moi de gens qui aient pu échapper à la case beaucoup de travail. J'ai pas d'exemple. Donc voilà, c'est le constat que je fais. Je reviendrai en arrière pour rien au monde. J'adore ce que je fais. Je suis très contente de le faire et je me sens, tu vois, j'avais cette conversation l'autre jour avec une amie, privilégiée, pas dans le sens, enfin vraiment privilégiée dans le sens, c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler sur ces sujets et de gagner ma vie en le faisant. C'est comme ça que je vois les choses.
Une sorte de reconnaissance, mais tu sais qu'elle n'est pas due uniquement aux autres, qu'elle est quand même due aussi
c'est pas de la chance.
À ton... Voilà, c'est ça. Cette notion de chance aussi, on en entend beaucoup parler. Oh, tu as de la chance d'avoir du temps, tu as de la chance de pouvoir aller chercher tes enfants à l'école. Bah, déjà, de un, ce n'est pas toujours le cas. De deux, il faut que tu puisses, qu'il fasse beau pour que tu puisses utiliser ton vélo.
Ce n'est pas le cas.
Et puis, enfin voilà, il y a plein de facteurs, comme tu dis, qui font que tu peux pas toujours. Et puis, c'est pas parce qu'on est à notre compte qu'on ne dépend pas forcément des autres. Enfin, on peut dépendre de nos clients qui, eux, sont des entreprises et ont des horaires et des contraintes, etc. Donc, cette liberté-là, elle est là, bien sûr, mais il y a quand même des contraintes. Ce qui change, peut-être, c'est comme tu disais, c'est cet épanouissement, cette envie d'y aller, d'être là pour une cause qui nous est vraiment chère et qu'on a envie de porter, qui est différente. Peut-être quand on est salarié, parce que on a notre paye à la fin du mois, on a cette notion un petit peu rassurante finalement de sécurité qui est très bien. Enfin, moi je reviendrai pas non plus en arrière, mais je ne flagelle pas les gens qui sont salariés.
Non, bien sûr, non, c'est des choix,
c'est ça, voilà, exactement. Et je voulais revenir aussi sur cette notion de parentalité. Tu disais que vous deviez gérer ce calendrier finalement qui était quand même très, très prenant. Euh, et, Et je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y a aussi des parents qui sont monoparentales. Et je me demande aussi comment ils font, ces personnes-là. Et moi, qui n'ai pas d'enfant, déjà, je vois difficilement comment faire plus de place dans mon agenda pour accueillir un enfant alors que j'ai un conjoint. Et je me dis, waouh, ces mamans qui ont leur mari qui est à côté et qui aide. Mais waouh aussi, ces mamans qui sont seules et ces papas qui sont seuls à gérer leurs enfants. Comment est-ce que tu accompagnes, toi, des personnes qui... Et dans les équilibres, je sais que oui, mais quelle est ta vision sur ça? Et voilà, cette charge mentale qui va augmenter encore, etc.
Ma vision, et c'est une vision de quelqu'un qui a le privilège de ne pas le vivre, donc je la pose avec toute l'humilité qui convient. J'ai beaucoup en tête les paroles de Nathalie de Courcy que j'avais invitée dans le podcast qui elle milite vraiment pour que les entreprises s'adaptent à la situation des parents solo, parce que on parle de charge mentale, mais la charge mentale des parents solo est absolument démentielle. Il y a d'énormes risques de burn-out, d'épuisement, parce que la société et le monde du travail ne sont pas prévus pour gérer ça. Elle me racontait, par exemple, des fois où quand elle devait aller chercher quelque chose à la cave, il fallait qu'elle descende avec ses trois enfants. Enfin, on n'imagine pas, en fait, le niveau de détail, de complexité que ça ajoute. Et les casse-têtes pour faire rentrer le travail, les déplacements, tout est plus complexe. Alors en plus, les dernières années où tous les parents ont jonglé, mais alors solo, c'est encore pire que tout. Donc il y a vraiment cette... Et c'est ça qui est intéressant dans la période qu'on vit, c'est que les entreprises ont pris conscience que, grâce au Covid, mais ont pris conscience que la vie des gens ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et que si on ne tient pas compte de cette vie-là, on les met en grande difficulté. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, en fait. On les met en grande difficulté parce que les contraintes, même si ce sont de très belles contraintes, le fait d'élever un enfant, c'est une très belle contrainte, mais c'est une contrainte dans le sens où c'est quelque chose qui demande de l'énergie, de l'attention, du temps. Si on ne tient pas compte de ça, on met les gens en situation en permanence de conflit, de loyauté, voilà, et c'est très, très difficile. Donc, il y a... merci le Covid pour ça, d'avoir mis la lumière sur ce qui se passe derrière.
Des choses mauvaises, ouais. Effectivement, ça aura permis de mettre aussi en lumière et d'avoir plus ce temps pour, en famille, pour se retrouver, mais aussi parfois quelques excès, on va dire, entre les réunions, finir plus tard parce qu'on est chez soi et que du coup on n'a pas les temps de transport. Il y a des pour et des contre, bien sûr, mais c'est vrai que du coup ça a aidé sur certains points. Je veux revenir à ton parcours du coup, parce que donc on parlait du fait que tu n'avais pas au départ, quand tu as quitté ton travail, l'idée de ce que tu voulais faire, et ça, c'est venu petit à petit de se dire avec les équilibrés je vais accompagner, etc. Comment et quand est-ce que tu as pris la décision de dire en fait il faut que je me forme au coaching et que j'accompagne des gens et ensuite accompagner les gens et les entreprises différemment? Comment est-ce que c'est venu?
Ouais, alors au tout départ, mon envie, c'était, j'avais vu aux États-Unis une entreprise qui proposait un job board d'emploi flexible et ambitieux. Et je me suis dit, ça me faisait rêver, vraiment, vraiment rêver. Et je me disais, il faut ça en France. Et puis, je me suis vite rendu compte que des postes flexibles et ambitieux, il n'y en avait pas. Donc, pour faire un job board, il faut qu'il y ait des postes. Et il n'y avait pas trop ça. Donc, j'ai quand même voulu travailler sur ce sujet-là. Donc, j'ai commencé par accompagner les entreprises sur des questions d'expérience collaborateur et de comment est-ce qu'on développe une forme d'empathie, finalement, pour ce que vivent les gens, pour aller au-delà des baromètres annuels auxquels les gens répondent plus ou moins et qui sont très macro, mais de rentrer vraiment dans le détail de c'est quoi ton vécu, ça ressemble à quoi ton quotidien, avec plein d'outils issue de ma vie de marketeuse, mais aussi d'outils type design thinking, qui sont des outils géniaux pour amener les gens à sortir, de changer de perspective, aller aborder les choses par d'autres angles, et ça amène des choses très riches. Donc j'ai commencé comme ça.
Et puis, petit à petit, et ça, c'est entre ce qu'on s'imagine lancer et puis ce qu'on finit par lancer parce que ça fit et qu'on a une demande, j'ai commencé ensuite à beaucoup faire de podcasts pour les entreprises, des podcasts à visée de formation. Donc, c'est vraiment c'était utilisé comme ça pour des populations, soit de collaborateurs, soit de managers, mais des podcasts accompagnés ou non d'ateliers derrière. Donc, moi, c'est ce que je préférais quand je pouvais faire les ateliers derrière parce que c'est super hein, si tout le monde écoute un même podcast et se dit « bah oui, c'est comme ça que j'aimerais manager, c'est comme ça que j'aimerais qu'on vive ensemble ». Et si derrière, on ne connecte pas les gens, le changement
a
moins lieu. Ouais, voilà, exactement. Et l'envie de me former au coaching, c'est venu petit à petit. Au départ, j'avais vraiment envie de travailler sur les structures, sur les systèmes, parce que je voyais bien qu'il y avait un problème... enfin, en tout cas du travail à faire pour que les entreprises, les organisations se disent bah oui tiens ça il faudrait qu'on change. J'avais vraiment envie de travailler sur les systèmes et puis petit à petit en discutant avec mes auditrices même avec mes clients, je me suis rendu compte à quel point au milieu de toutes ces injonctions liées à la parentalité, liées au travail, beaucoup de personnes étaient assez perdues, ne savaient plus trop faire de choix et ne savaient plus trop ce dont elles avaient envie, elles. Tu vois, mes auditrices, je dis auditrices, j'ai des auditeurs aussi, mais la grosse majorité, ce sont des auditrices. Elles sont, là, j'ai refait un sondage il n'y a pas longtemps, mais ce sont des femmes très diplômées, avec des postes à forte responsabilité. Et donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude de beaucoup travailler, de beaucoup répondre aux attentes. Et donc, au milieu de ça, souvent, elles me disent bah, « je ne sais plus, en fait. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus quel est le bon choix. Je ne sais plus. » Donc, j'ai eu envie d'accompagner ces questionnements-là. Ces questionnements de bah, comment est-ce qu'on fait des choix pro, des choix de vie qui vont bien au bon moment. Et c'est comme ça que je me suis formée au coaching, après un long benchmark au milieu de toutes les formations qui existent, où j'ai écouté mon cœur et un mélange de cœur et de raison, une formation... très très reconnue et aussi américaine donc pour refaire le lien avec une partie de mes origines, on va dire.
Et tu peux nous donner le nom de cette formation?
Oui, bien sûr, ça s'appelle Coactive Training Institute, CTI. C'est une des plus vieilles écoles de coaching et une école qui est très reconnue, notamment dans les entreprises, pour la rigueur de sa formation. Et voilà, rigueur et fun, ça c'est en général un bon combo pour moi.
je le remettrai dans les notes ouais. de cet épisode pour ceux que ça intéresse. Super, on a abordé plein de points et donc grâce du coup à tout ce benchmark avec le fait d'avoir fait cette formation, ça a été beaucoup plus fluide après. Comment ça s'est passé?
Qu'est-ce qui a été plus fluide?
Ben, ton parcours professionnel, enfin, tu t'es dit tout de suite après cette formation, ok, ben, c'est bon, je vais accompagner les gens sur ces notions-là, sur continuer à faire des ateliers, continuer à proposer des podcasts, ou alors d'autres ouais. choses sont venues à toi. Comment ça s'est déroulé?
Ben, tu sais, moi, je vois vraiment les choses comme un chemin en cours tout le temps. J'ai jamais cette sensation d'être arrivée où je me dis jamais, tiens, quand j'aurais fait ça, je serais arrivée. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc je sais que toute ma vie je serai dans cette démarche-là de me former, d'apprendre des nouvelles choses. C'est plutôt l'inverse, là je me suis promis de ne pas me former en 2023, histoire de laisser décanter ce que j'ai déjà appris et utilisé tout ça. Mais donc rien n'est devenu ni plus fluide ni plus simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'offre que je propose est de plus en plus pertinente et résonante, à la fois avec ce dont ont besoin mes clients et puis avec ce que j'aime faire. Tu sais, cette notion de flow, je suis très souvent dans le flow, dans ce que je fais. Donc, la semaine dernière, je devais animer une conférence en présentiel. Les grèves et la vie ont fait que j'ai dû le passer à distance. Donc, au-delà de la frustration de... Tu sais, c'est très bizarre quand tu animes une conf à distance et que tu fais clic, tu raccroches. Tu as eu des super échanges hyper intenses. Et puis, boum, tu raccroches et tu es dans ton bureau tout seul. Au-delà de ça, il y avait... Enfin, c'était une expérience géniale qui a beaucoup plu aux clients, qui m'a beaucoup plu. Et ça, je me sens très chanceuse de ça, de cette richesse-là, de faire ce que j'aime, de le faire a priori bien, d'après ce que me disent mes clients et d'après les retours que j'ai. Et donc ça, voilà, petit à petit, c'est des briques qui se posent, qui se construisent. Et donc voilà, je me sens très juste dans ce que je fais aujourd'hui. Ça sonne très juste pour moi et autour. Donc ça, c'est chouette. Mmh.
Une sorte d'alignement finalement des planètes, mais toujours dans ce constant chemin qui est le monde aussi, puisque le monde évolue, tu évolues et donc tout évolue ensemble.
C'est ça, tout change.
Fluidité, super. J'adore comment tu expliques tout ça. Je voulais revenir sur cette définition parce qu'on l'a dit au début de l'épisode et on n'en a pas encore parlé de ces mots. En France, dans les pays occidentaux, dans notre société, on évoque beaucoup cet équilibre vie pro, vie perso. Et toi, tu aimes bien dire il n'y a pas l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a, donc dans votre vie, il y a la vie point. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette définition et comment toi tu l'amènes ? Je ne veux pas te citer, je veux que tu nous l'expliques toi.
Ouais, en fait, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est une expression dont En fait, l'image qu'elle fait surgir à l'esprit, c'est celle d'une balance. Et dans cette balance, il y a des poids équivalents de part et d'autre et tout est très symétrique et bien ordonné. Et voilà, et je trouve que c'est une définition, une évocation qui n'aide pas, parce que je connais personne dont la vie ressemble à ça. Ça me paraît presque même mortifère. Quelque chose qui représenterait une sorte d'idéal ou de graal inaccessible. Parce que les moments où on est en équilibre, et là je cite ma prof de danse, et t'as évoqué la danse, et la danse est un vivier de métaphores incroyables pour parler de cette notion-là, mais en danse, quand on est à l'équilibre, c'est parce que tous les muscles travaillent, et que en fait on est juste en train de rattraper plein de micro-déséquilibres, ça veut rien dire l'équilibre, c'est-à-dire c'est pas un état. C'était ça la citation de ma prof de danse, l'équilibre c'est pas un état, c'est une recherche, donc c'est pas un état, c'est pas un truc qu'on atteint, pouf, on est à l'équilibre, on reste planté, c'est pas ça. C'est plus comment est-ce que je danse, comment est-ce que je réajuste en permanence par rapport à ce qui se passe dans ma vie, qui est très fluctuant, en positif comme en négatif, mais tout change tout le temps. Donc comment est-ce que j'arrive à me connaître suffisamment bien pour pouvoir être en mesure de réajuster, de compter sur mon entourage, de mettre en place ce qu'il faut pour que je me sente bien. En fait, être à l'équilibre, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire des tas de choses. Quand on dit je veux préserver mon équilibre, il faut vraiment s'interroger, qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que je peux te citer des dizaines de clientes qui ont chacune des notions différentes derrière ça. Pour certaines, ça va être j'adore bosser, mais j'en ai marre d'être en déplacement. Pour d'autres, ça peut être je veux vraiment avoir mes mercredis pour être avec mes enfants. Pour d'autres, ça va être j'adore bosser et voir mes enfants le week-end, ça me suffit, ça me dérange pas de pas les voir le soir. Là, je te parle beaucoup sous l'angle de la parentalité, mais ça peut vouloir dire mille choses. Et donc, la question, c'est comment est-ce que je me crée une vie dans laquelle je puisse nourrir toutes ces facettes de moi qui sont importantes et dans laquelle je ne laisse pas mourir sans attention et sans soin des parties de moi dont j'ai besoin pour être vivante, quoi, pour être pleinement là, pour être pleinement dans la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est pas du tout... Alors vraiment, il y a un truc... récemment sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a tagué en parlant de coaching et de tout ce que moi j'aime pas dans certains effets pervers du coaching, mais la meilleure version de soi-même et tout. Au secours, c'est pas du tout ça, c'est vraiment comment être juste, en fait, être juste pour soi. C'est, y a aucune notion de performance là-dedans, c'est vraiment comment est-ce qu'on est juste au bon endroit. Et ça, c'est pas évident, c'est pas voilà, mais c'est une chouette aspiration en tout cas.
Et ça me fait beaucoup penser ce que tu dis à... Donc moi, j'ai pas un accent anglais aussi beau que le tien, mais ma prof de yoga disait tout le temps un endroit où vous vous sentez en sécurité est dans cette safe place. Cet endroit, voilà, c'est ça, où tu... Et il y en a d'autres qui disent safe space aussi. Mais bref, cet endroit où tu te sens bien, où, comme tu dis, tu peux tout avoir, te sentir vivante sans forcément que tout soit à l'équilibre profond, mais tu te sens bien à cet instant et ça va fluctuer au quotidien, quoi.
et où on a une vision peut-être aussi plus large. Enfin, il y a plein de notions. On pourrait faire un podcast de 12 heures sur le sujet, mais en fait, il y a aussi différentes notions de temporalité. Donc, on peut avoir des semaines ou des mois totalement déséquilibrés, mais ça nous convient parce que on est à fond sur quelque chose qui compte. Je sais pas, quand on accompagne un proche qui est malade ou qu'au contraire, au boulot, on a un gros projet qui nous tient vachement à cœur et dans lequel on s'épanouit, ou dans lequel on s'épanouit pas trop d'ailleurs, où il peut y avoir des frictions. Il y a ça aussi qui vient avec la notion d'équilibre tel qu'on l'imagine avec cette balance, mais cette idée que tout doit être sous contrôle, lisse, alors que la vie, c'est quand même un jaillissement d'émotions plus ou moins confortables et agréables. Il y a aussi de ça dans cette notion d'équilibre, c'est d'être à l'aise aussi dans les moments où c'est plus à l'aise possible, dans les moments où c'est inconfortable. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère parler, moi, d'harmonie ou d'intégration pro-perso ou d'équilibre des temps de vie, parce que pro-perso, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, et ce n'est pas pour jouer sur les mots ou être un peu casse-pied, c'est parce que je pense que quand je vois les réactions dans mes conférences, justement, où je désacralise un petit peu cette notion-là, il y a comme des réactions de soulagement, de « Ah ouf, en fait, c'est pas ça qu'on attend de moi !» comme si l'équilibre était devenu une nouvelle injonction, un peu, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne un peu collectivement à se fiche la paix, et voilà, il y a un peu de ça.
Ça me fait rire parce que bon, je prends des notes en même temps, et juste avant notre épisode, j'étais en train de faire le montage de l'épisode de cette semaine pour dire que je suis vraiment en retard. Et je réécoutais en fait cet échange que j'ai eu avec Philippe Chapeau, qui, s'il m'entend, le fondateur du podcast Magazine, et on parlait de ça, justement, de ces notions-là, et c'était hyper, hyper intéressant, de motivation, des injonctions, de l'équilibre, de cette notion-là, et qu'en fait c'est tellement personnel. Enfin, voilà, tout est relié. Mais bref, c'est ce que tu as dit, ça m'a fait penser à ça. Comme si l'équilibre était devenu une nouvelle injonction. Ah. Et puis en même temps, dans ce que tu disais, tu parlais des fluctuations. Et du coup, ça m'a fait penser aux fluctuations du mental. Et ça fait référence en yoga au Yoga Sutra, donc qui est un livre qui reprend les grandes valeurs du yoga. Et là, pour le coup, on dit que le yoga et la méditation, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Parce qu'on est tout le temps perturbé par des pensées, tout le temps, c'est pas bien ce que j'ai fait, je dois encore faire ci, faire ça, il faut que je pense à ça, ou à ci, à quelqu'un d'autre, à quelque chose, etc. Mais en fait, on revient pas très rarement à soi et à ce qui est important pour nous. Et en fait, on a une agitation permanente, physique, mentale, émotionnelle, qui nous empêche finalement d'être véritablement avec nous. Et donc, cette safe place, cet équilibre à trouver, cette justesse, cette harmonie, enfin, tous ces mots qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est un peu ça. Mais d'un autre côté, je me disais, mais attends, si on arrête les fluctuations du mental, on n'est plus dans ce flow. Donc, bref, on pourrait, comme tu dis, en parler pendant 12 heures, mais, mais voilà, j'ai eu plein de pensées qui me sont
c'est
arrivées
chouette,
pendant que tu parlais.
Ouais, j'ai réécouté ton épisode, alors.
Je voulais du coup qu'on parle un petit peu de l'entrepreneuriat un petit peu plus, parce qu'effectivement on a abordé cette notion d'équilibre, comment tu le traduis, comment tu le transmets, et je voudrais savoir si tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui se lancent pour justement toutes ces notions dont on a parlé, d'harmonie, effectivement être complètement en dehors de cette meilleure version de soi-même, parce que cette citation-là, il faudrait qu'on la bannisse, mais d'avoir cette vision. Et si tu as des choses que tu aurais aimé peut-être qu'on te transmette quand tu t'es lancé et que tu n'as pas forcément eu, ou que toi tu donnes comme conseil aux personnes que tu accompagnes. Voilà.
Je pense qu'il y a... Il y a une chose que je suis contente de savoir maintenant, c'est que à quel point la peur, sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit financière, de se tromper, de pas faire assez, enfin, il y a plein de formes de peur, mais que ces peurs-là, elles sont normales. Enfin, ne pas les diaboliser et ne pas se dire que c'est parce qu'on a peur que c'est un indicateur qu'il faut pas y aller. Les peurs, ça se gère. Et les peurs, ça se gère. En faisant partie d'un groupe, en échangeant avec d'autres, en écoutant des podcasts, en se faisant coacher quand on en a besoin. Mais en tout cas, se dire que la peur est un compagnon de route quand on entreprend. Moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'exercice de développement personnel par excellence. Enfin, le truc qui te pousse le plus à bout dans toutes tes failles, tous tes doutes, enfin tout, ça t'oblige à faire face en fait tout le temps. Tu peux pas te cacher. Et ça, c'est très beau et c'est très riche et c'est aussi parfois très. C'est pas pour rien qu'on parle des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai jamais vécu ça en tant que salarié. Il y avait d'autres choses. Il y avait des frustrations. Il y avait des moments de colère, des moments d'incompréhension. Mais ce niveau-là de montagnes russes émotionnelles, je pense qu'on ne le vit que dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut en fait normaliser aussi ça, et ça veut dire ne pas hésiter à parler autour de soi, pas s'isoler, parce que ça je pense que c'est vraiment quelque chose de dangereux quand on est à son compte. On est tenté de travailler beaucoup pour faire décoller son projet, etc., mais plus on est en contact avec son marché pour aller tester les choses rapidement, pas passer des mois et des mois à échafauder une offre sans aller la confronter au marché, par exemple. Plus on peut être en lien avec de potentiels clients, avec des partenaires, avec d'autres entrepreneurs, mieux on s'en sort parce qu'on se confronte à la réalité et on sort de sa tête. Et ce matin, j'écoutais un podcast vraiment intéressant de Pauline Trekesser, qui a lancé le podcast Puissance Care. Pauline qui est fondatrice du collectif de freelance Cosme à Bordeaux. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'avait invité dans son podcast, et j'ai écouté son épisode avec Alexandre Dana, que tu connais sûrement, de Live Mentor.
Oui.
Et qui disait, et ça me semblait très juste, et c'était quelque chose que j'avais abordé aussi dans une tribune pour Welcome to the Jungle, mais qui disait on est beaucoup trop dans le mental. Le fait est qu'on est beaucoup, beaucoup dans le mental quand on est entrepreneur. Et plus on peut se ramener au niveau du corps, et toi, ça va te parler, Alexandre, mais plus on peut se remettre dans le corps, mieux c'est, parce que on peut se faire vraiment vraiment des nœuds au cerveau, à tourner le truc dans tous les sens. Donc voilà, revenir dans le corps, se connecter aux autres, je pense que c'est des bons compagnons de route, des bons garde-fous. Voilà, et puis trouver le moyen de... Il faut qu'il y ait du plaisir, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait du plaisir dans ce qu'on fait. Donc trouver des moyens d'amener ça, quand on parle de différenciation ou de... Pourquoi toi, t'amènes cette offre-là et qu'est-ce que t'as de différent ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton projet ? Et se raccrocher à ça, parce que c'est souvent là qu'on amène le plus aux autres, qu'on brille le plus, qu'on est le plus pertinent et utile. Voilà, quelques idées en vrac.
J'ai pris des notes en même temps, donc je réécouterai ce passage pour redonner tout ce qu'il faut à nos éditeurs. Mais oui, je trouve que c'est hyper intéressant. J'avais envie de rebondir sur cette notion de plus on se remet dans le corps, mieux c'est. Et plus on arrive à se connecter aux autres aussi. Parce qu'en fait, le corps, c'est la traduction de nos mots, M-A-U-X, et des mots aussi qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas. Par exemple, si vous avez mal au dos, c'est toujours que votre corps vous dit stop, là je suis arrivée à un point où s'il te plaît laisse-moi tranquille. Et avant notre épisode tu me disais je vais me mettre des plages dans mon agenda pour avoir plus de temps. C'est peut-être ça, c'est cette solution là qui convient pas forcément à tous, mais qui par exemple toi te convient, d'avoir plus de temps pour créer, pour réaliser des choses, mettre en place des projets et pas seulement travailler pour tes clients mais vraiment faire des choses. Moi ça va être nécessaire aussi pour moi que je prenne plus de temps pour enfin envoyer ma newsletter et pas juste faire la newsletter pour mes clients. et donc ça fait 2 mois que je me dis il faut que je le fasse, il faut que je l'envoie cette newsletter. Mais c'est vrai, c'est important de revenir à ce pourquoi, à cette envie, à ce qui nous fait plaisir, comme tu l'as dit en dernier. Tout ça, c'est hyper riche et je pense qu'on a vu une grande bride de tout ce qui est possible. J'avais envie juste de revenir sur tes projets. On a le podcast Les Équilibristes, et d'ailleurs c'est une belle traduction de ta définition de l'équilibre, cette danseuse sur son fil symbolisée, et tu as donc tes accompagnements en entreprise, en individuel. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes aujourd'hui et aussi peut-être de tes futurs projets?
Ouais, avec plaisir, que tu connais bien, toi.
Oui.
Parce qu'on a le plaisir de travailler ensemble. Mais ouais, moi, alors, effectivement, j'accompagne les individus en coaching individuel. Donc ça, c'est une partie de mon activité que j'aime beaucoup, qui nourrit aussi beaucoup ensuite ce que j'ai envie de proposer dans les équilibristes, parce que je suis au cœur des sujets. Je travaille beaucoup pour des entreprises, plutôt des grands groupes, et j'accompagne aussi pas mal de réseaux féminins, des femmes aux fonctionnaires, des réseaux féminins dans des grands groupes aussi. Et à chaque fois, ce qui se dessine, c'est vraiment des ateliers, en fait, des endroits, des safe spaces, justement, où on peut venir parler de sujets qui sont à la frontière du pro et du perso, des sujets qu'on n'aborde pas facilement dans le contexte professionnel, mais qui sont au cœur de l'expérience de travail de ces gens-là. Donc ça, c'est en train de devenir un peu ma spécialité, ces sujets un peu à cheval, qu'on n'aborde pas spontanément. Et donc, je crée des espaces de temps, de sécurité pour que ça puisse être abordé et que ça puisse aussi ensuite infuser, diffuser dans les entreprises. Donc, c'est souvent en lien avec des histoires de réflexion autour des carrières des femmes. Et ça, je m'en réjouis avec toutes les lois qui passent en ce moment et l'attention que prend ce sujet de comment est-ce qu'on garde les femmes, comment est-ce qu'on les motive, parce que leurs carrières ne sont pas les mêmes que celles des hommes. C'est une évidence. Donc voilà. Donc j'accompagne pas mal avec des ateliers, avec des conférences. Et je suis en train de travailler sur un projet de programme de coaching de groupe qui a vraiment pour vocation d'accompagner en particulier les femmes à faire des choix qui soient éclairés, d'une meilleure connaissance d'elles-mêmes, des choix pro et des choix perso, mais à se dire, voilà, la prochaine étape pour moi, ce sera ça. J'y vais avec le plus de sérénité et de confiance possible, avec aussi la certitude que je peux changer. Et ça se fait très bien en groupe. Donc, je veux vraiment proposer un cadre de groupe qui leur permette aussi de s'aider entre elles. Il y aura aussi des interventions d'experts parmi mes invités du podcast. Voilà, ça va être un groupe où on va beaucoup... have fun, on va vraiment have fun, ça va être des moments sympas avec beaucoup de contenu et d'apports aussi issus du coaching, issus de toute l'expérience aussi accumulée depuis 4 ans sur ces sujets-là, parce que l'équilibre, c'est un sujet fondamental aujourd'hui, et ça, je m'en réjouis aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que l'équilibre, c'est pas un sujet bien-être ou auquel on réfléchira s'il reste un peu de temps et de budget, c'est un sujet fondamental si on veut motiver les gens à long terme. Et quand je dis les gens, je pense en particulier aux femmes. Il y a une étude de l'APEC là, qui vient de sortir et qui redit ça, à quel point cette histoire de ce qu'ils appellent conciliation pèse lourd sur les choix de carrière. Donc, c'est un programme que je vais proposer aux individus, à mes équilibristes chéris, et aussi aux entreprises, en inter-entreprise, dans cette idée de vraiment équiper aussi les femmes au-delà de leurs choix personnels, de se dire comment est-ce qu'on devient agent du changement dans les organisations dont on fait partie pour impulser autre chose. Et petit à petit changer ce monde du travail pour qu'il soit beaucoup plus accueillant pour des gens qui ne sont pas le travailleur idéal, qui n'existe plus depuis belle lurette, ce travailleur qui est disponible tout le temps pour son entreprise. Il n'est plus là, donc il faut faire de la place aux autres.
C'est marrant parce qu'on en parlait ce matin en enregistrant avec Magali Boisseau, mais elle qui me parlait des entreprises qui ne s'adaptent pas encore totalement à cette biodiversité, à ce qu'on pourrait faire sur la planète, mais ça passe d'abord, et elle le disait elle aussi, par l'humain. Oui, et en fait, on ne peut pas être acteur du changement en tant qu'entreprise si on n'intègre pas l'humain en premier dans son organisation. Donc parfait.
Tout à fait ça. Et j'aime bien cette métaphore avec la biodiversité, j'y crois beaucoup à ça, au parallèle entre tout ce travail autour des ressources, qu'elles soient, qu'elles soient au niveau de notre nature, au niveau individuel. C'est très très juste. Ouais.
Je suis totalement d'accord avec toi, avec ce que Magali dit, et je trouve que tout est interconnecté et recoupé, et c'est ce que tu me disais juste avant. Je voulais terminer avec une phrase que j'ai entendue plusieurs fois que tu as dite dans certains épisodes dans lesquels tu as été interviewée. Tu disais tu voulais pas parler de vie pro et vie perso, mais de intime et
public. Mm-mm. Ouais. Parce qu'en fait, cette ligne de démarcation entre le pro et perso, elle n'a plus beaucoup de sens, pour les raisons qu'on a évoquées. C'est-à-dire que le fait que je sois maman, ou le fait que je sois aidante, ou le fait que, voilà, c'est personnel, bien sûr, mais la question, c'est pas tant de le savoir ou de pas le savoir dans l'entreprise, la question c'est plus, ben, jusqu'où, quel est le niveau de détail que mon entreprise a besoin de savoir. Par exemple, si j'ai une maladie chronique, mon entreprise n'a pas besoin de connaître les détails de tous mes rendez-vous, ou si je suis en parcours de PMA, mon entreprise n'a pas non plus besoin de connaître tous les détails. En revanche, qu'elle sache que je vis ça, c'est sûrement assez pertinent dans la manière dont je pourrais bénéficier de davantage de flexibilité, donc peut-être, dans l'aménagement des conditions de travail que ça permet. Elle n'a pas besoin de tout savoir. En revanche, elle a de savoir un peu le big picture dans les grosses mailles, ça, c'est intéressant. Et c'est d'ailleurs intéressant aussi de voir à quel point ce type de raisonnement est tout à fait naturel dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, encore une fois, mais où ce n'est pas un sujet, en fait. Le fait que, par exemple, je reprends l'exemple de la PMA, mais c'est très courant d'en parler dans le monde du travail, aux États-Unis, en Angleterre. C'est pas un problème. La question de la santé mentale aussi est un de ces sujets-là.
Ouais, il y a un gros frein en France, effectivement.
Ouais, il y a un gros frein. On est très pudique en France. On est très pudique. Ouais. Mais donc voilà, jusqu'où je partage.
Tu trouves que j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins pas coincé là-dessus, c'est pas le bon mot, mais tu vois qu'on se dit plus les choses si on a besoin, parce que j'ai l'impression qu'on se sent plus libre d'avoir fait parce qu'on a fait ce choix d'entreprendre. Peut-être. Un petit peu plus en tout cas qu'en entreprise.
Ouais, je sais pas. Après, il y a le côté, beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité. Donc, il y a encore d'autres questions qui se posent.
Oui, ça, c'est sûr.
D'arrêt maladie. Là, j'ai discuté l'autre jour avec une amie qui me disait qu'elle a frôlé le burn-out il y a quelques mois. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien, quoi. Que si elle avait besoin de s'arrêter, il ne se passait rien. Donc, malgré sa protection, malgré tout ça. Donc, il y a d'autres sujets qui se posent. Ouais. Mais voilà, d'où, pour revenir à ta question sur ce... Je pense que la question, ce n'est pas qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est perso, mais plus qu'est-ce qui est pro, ça c'est clair, qu'est-ce qui est perso intime, que je garde pour mes amis, pour moi, et qu'est-ce qui est pro public, qu'est-ce que je peux partager dans mon contexte... qu'est-ce qui est perso public, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux partager de moi, de ma vie qui est plus personnelle,
et
que
je peux partager. Voilà.
Exactement. Et pour normaliser aussi, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas le seul à être aidant, on n'est pas le seul à vivre ça, et ça aide, ça. Ça aide.
Sandra, je ne vais pas te prendre plus de temps parce que je sais que nos calendriers d'équilibristes sont chargés. est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aurais envie de nous partager ce soir avec... Enfin, ce soir, ce sera ce matin pour ceux qui nous écoutent dès le matin et dès la sortie, mais aujourd'hui, une citation, quelque chose qui t'inspire de notre échange pour terminer cet épisode.
Écoute, je peux, puisque ce sont des auditeurs et des auditrices qui écoutent des podcasts, c'est qu'a priori peut-être ils sont assez intéressés par les podcasts en règle générale, et tu as certainement beaucoup d'entrepreneurs qui t'écoutent, donc peut-être recommander d'aller écouter le podcast de Pauline, que je trouve très bien fait, qui s'intéresse à la question justement du soin aux entrepreneurs. Donc c'est cette idée de, ça s'appelle Puissance Care, cette idée de comment est-ce qu'on prend soin des entrepreneurs, parce qu'on n'a pas justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, les filets de sécurité qu'ont les salariés. Et tu vois, j'ai encore vu des posts moi j'ai eu la chance de vivre mes grossesses en étant salariée, mais je vois mes amis qui sont à leur compte, qui ont 6 euros d'indemnité maternité par jour, donc autant te dire qu'on va pas bien loin. Et qui se battent pour avoir plus... Enfin bon, ça donne des choses assez ubuesques. Et donc de se dire comment est-ce qu'on prend davantage soin des entrepreneurs, son podcast parle de ça. Et je trouve très bien fait, j'aime beaucoup le ton qu'elle crée, comme toi, Alexane. Et donc ça peut être une ressource chouette.
Complètement, je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Ouais. Merci pour le partage, parce que j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais pris le temps d'écouter. Et d'ailleurs, cette notion de congé mat, j'en parlais justement ce matin avec une amie qui vient d'annoncer sa grossesse et qui est entrepreneur. Et on se disait qu'il y avait quand même des choses qui se mettaient de plus en plus en place, parce qu'elle me disait, ça y est, je vais pouvoir quand même avoir un congé mat. Et c'était ça qui me faisait peur. Donc tout dépend aussi du statut de type d'entreprise que tu as, mais effectivement, je sais que pour les auto-entrepreneurs, c'est très très difficile et il y a peu de ressources pour le moment. Ça tend à s'améliorer, donc on croise les doigts pour que des choses soient mises en place.
Ouais. Ouais, absolument.
En tout cas, merci beaucoup, Sandra, pour tes partages. Merci pour ta confiance, ta transparence et puis tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et puis, je te dis à très vite.
Avec plaisir et merci beaucoup, Alexandre. Merci.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.